Vous écoutez
RMC. RMC, l'after foot en direct de Casablanca.
On en attaque pour Brahim Diaz, qui va pouvoir décaler Raimi. Et c'est le 3-0, le troisième but pour le Maroc. Et le Maroc continue à écrire l'histoire du continent africain. Pour la deuxième fois, le Maroc sera dans le top 8 des meilleures équipes du monde.
Karine Galli. Nous sommes en Afrique, nous sommes à Casablanca. On vous fait vivre le meilleur du football féminin et masculin. Vous le savez qu'actuellement, il y a la CAN 2026 pour les femmes qui se jouent. C'est du 26 juillet au 16 août avec actuellement la première journée de la compétition. Et déjà, le Maroc qui a cartonné pour son match d'ouverture, on le rappelle, avec un succès 4-0 face au Kenya. Toujours à mes côtés, notre invité Nassim El Khelaifi, qui est journaliste dans plusieurs médias marocains. Et on accueille de nouveaux invités. Nous accueillons Rita Mizdi, qui est créatrice de contenu et médecin. Et ça, c'est un combo assez incroyable. Bonsoir, merci d'être avec nous.
Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette belle présentation. Et je suis très heureuse de partager ce moment avec vous tous.
Eh bien, on va vous découvrir dans quelques minutes, évidemment, plus en détail. Et à vos côtés, nous avons Ayoub Logi, qui est créateur de contenu sur le foot et sur la culture marocaine. Bonsoir Ayoub.
Bonsoir, merci pour la présentation aussi. C'est un plaisir d'être avec vous.
On est ravis de vous accueillir sur RMC. Vous étiez tous les deux présents à la Coupe du Monde 2026 qui vient de se terminer. On est en train de faire le bilan des nations africaines et notamment du Maroc. On a entendu Marouane Chamakh il y a quelques minutes, qui était notre invité sur RMC. On va continuer d'en parler. Nassim, quel est votre regard sur les nations africaines? On le rappelle, le Maroc, une nouvelle fois, donc meilleure nation africaine. Ça s'est arrêté face à la France en quart de finale avec cette défaite 2-0. Il y a eu aussi des coups de cœur, évidemment. Je pense au Cap-Vert, l'Égypte qui est passée tout près d'un exploit face à l'Argentine qui était les champions du monde 2022. Est-ce que l'Afrique, dans sa globalité, a réussi sa Coupe du Monde?
Oh, il y avait un constat à faire, parce que quand on a eu les 10 places ou bien les 9 places et demie, entre guillemets, ça avait fait parler. Fallait fermer des bouches, fallait être prêt à se donner à 100% sur le terrain et fallait se qualifier au moins, voir les moitiés sortir des groupes. Finalement, on a fait quasiment un carton plein.
Le gros raté, c'est la Tunisie.
Ouais, c'était. Enfin, on le sentait venir dès le début.
C'est pas une surprise parce qu'il y avait beaucoup de soucis.
Mais quand même, on s'attendait à ce que la Tunisie fasse un peu mieux que son zéro pointé. Bref, on est passé à 9 sur 10. Avec une bonne Tunisie, une moyenne Tunisie, on serait à 10 sur 10. Maintenant, pour passer l'autre palier, il fallait du travail, une autre mentalité. Je pense que l'équipe nationale est débarquée en Coupe du Monde avec un plafond de verre déjà brisé. C'est-à-dire au Qatar, on a vaincu des grands, donc on avait un plafond de verre qu'on avait éclaté quasiment, même par rapport aux équipes africaines. Donc on est arrivé en regardant les grands dans les yeux. Faut rappeler qu'en 16e, on a tiré les Pays-Bas en sortant d'un groupe 2e derrière le Brésil. Donc faut le faire.
C'était vraiment un tirage très dur parce que la phase de groupe était dure et derrière tu fais une bonne phase de qualification et t'as droit aux Pays-Bas qui étaient une grosse nation.
C'était le seul choc entre deux top 10 des nations dans les classements FIFA. Donc faut dire que c'était le choc des 16e. On les regarde droit dans les yeux encore, on n'a pas peur, même on les oblige à changer leur système de jeu. Monsieur Coman, il a mis sa défense à 5, il avait peur de. Il a dit que si on l'avait joué à 4, on ne serait même pas arrivé en prolongation. C'est flatteur, c'est bien. Après, on tire le Canada pays hôte qui joue avec beaucoup de cœur et beaucoup de bonne volonté. Malheureusement, ça ne suffisait pas. On a montré qu'on était une grande équipe, car même en difficulté face au Canada, faut le dire que la première mi-temps c'était compliqué d'arriver à tenir. On a quand même gagné ce match 3-0 comme une grande équipe aurait pu le faire. Donc c'était parfait. C'était pour moi le trajet parfait. Après tu tombes contre la France c'est Avengers en quart de finale et tu fais pas le poids. Mais globalement, pour moi, l'Afrique a répondu présente. Ça m'a fait vraiment plaisir, moi, en tant que fervent défenseur du football africain. Et je dis qu'on a toujours mérité plus de place. Aujourd'hui, on l'a. Mais on a quand même du chemin à faire pour, pourquoi pas, avoir 2-3 équipes en quart de finale et aller titiller ces clubs européens qui dominent.
Est-ce qu'il n'y a pas des déceptions quand on voit les scénarios? L'Égypte, même 2-0 à la 79e minute, il continue l'aventure. Et puis finalement.
Le Sénégal.
Voilà, et j'allais dire, le Sénégal, c'est la même chose, ça c'est face à la Belgique, mais l'Égypte et le Sénégal sont passés par toutes les émotions, mais malheureusement, elles ont été sorties alors que ces deux nations avaient le match en main.
Il y avait le match en main. Il y a eu cette histoire aussi du Cap-Vert qui revient à chaque fois et qui vit toutes les émotions dans ce match exceptionnel face à l'Argentine de Lionel Messi, etc.
Le Cap-Vert a poussé les champions du monde en titre au moment où le match se joue en prolongation. Ce match est dingue, ce 3-2 est fou.
3-2, il revient, le but exceptionnel du latéral gauche et tout. On a vécu un scénario de film. Mais ce qui manque aujourd'hui, encore une fois, c'est cette concentration, cette envie de bien faire, parce que ce que je disais tout à l'heure par rapport au plafond de verre en 2022, Walid Regragui a eu une conférence de presse qui est pour moi historique, qui doit rester dans l'histoire du football africain. C'est qu'il dit qu'on en a marre de passer pour ces valeurs africains qui viennent, qui jouent, qui méritaient mieux, mais qui ont perdu le match. Maintenant, faut savoir les gagner, ces matchs qu'on perdait comme ça. Et je l'ai vu face au Canada, justement. Il y a quelques années, le Maroc aurait été dans le rôle du Canada. Ce vaillant qui joue au mi-temps face à un grand gardien mais qui n'y arrive pas et qui prend quand même 3-0, je pense que le Maroc aurait été à la place du Canada et on serait sorti sous les applaudissements, on aurait été content d'avoir atteint ce stade-là. Aujourd'hui, moi j'ai vu des Marocains qui étaient déçus de faire quart de finale et de perdre de cette manière-là sans se battre contre la France. Ça montre à quel point les mentalités sont en train de changer, c'est tant mieux, mais ça doit encore le faire en Afrique, ça doit encore savoir se contenter de ce qu'on a et tirer les matchs compliqués jusqu'au bout. L'Égypte typiquement qui gagne 2-0, il reste 10 minutes à jouer, tu en prends deux coups sur coup, et sur le troisième but argentin, t'es à 2-2. Tu as 2-2, tu vas chercher la victoire au lieu d'attendre peut-être les traînements en prolongation parce que tu as un gardien qui fait un match exceptionnel, qui était chaud. Peut-être qu'au pénalty, tu aurais pu gagner. Non, tu choisis d'aller chercher ce troisième pour réécrire l'histoire. Et j'ai l'impression que les Argentins l'avaient fait exprès, de les attirer un peu, de les aspirer. Ils sont tombés dans le piège. On tombe encore dans des pièges comme ça, des actions qu'on comprend pas. J'ai encore l'action de Sadio Mané contre la Belgique, quand il mène 2-0 pour tuer le match. Il y a une prise de décision bizarre. Après, je crois encore une fois deux buts coup sur coup. C'est des leçons qu'on a vécues tout le temps en tant qu'Africain en Coupe du Monde. On se souvient de la transversale de Gianna Samoa sur le fameux pénalty de Suarez. On se souvient de tout ça, mais on s'entête à refaire les mêmes erreurs maintenant. Pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu aussi en Afrique, on rappelle, je pense qu'on aura plus de nations africaines en huitième que cette fois-ci, parce que j'espère qu'on aura tiré une leçon, et surtout parce que le vivier est là. Les top 50 des meilleurs jeunes joueurs du monde, il y a beaucoup d'Africains qui arrivent en force et qui choisissent justement de représenter leur pays d'origine, et celui d'origine, c'est pas de leur part.
Rita, je me tourne vers vous parce que vous êtes une chanceuse. Vous avez eu le bonheur d'aller à la Coupe du Monde, vous revenez des États-Unis et vous étiez notamment dans le stade lors de ce 3-0 que Nassim vient de nous raconter. Vous avez vu la victoire du Maroc donc face au Canada 3-0. Racontez-nous cette Coupe du Monde, comment vous l'avez vécue et est-ce que vous trouvez que c'est une Coupe du Monde réussie pour les Lions de l'Atlas ?
Alors, cette Coupe du Monde, elle est un peu particulière parce qu'à chaque fois que le Maroc joue une grande compétition, j'ai quelque chose qui m'empêche d'y aller. Je ne suis pas allée au Qatar, je ne suis pas allée en Côte d'Ivoire par le travail et les études. Et cette fois-ci aussi, j'avais des raisons un peu personnelles de ne pas y aller depuis le début. Et donc, j'étais un peu frustrée. Et je suivais la compétition depuis le Maroc, de loin, et je regardais à peu près tous les matchs de la Coupe du Monde, pas seulement ceux du Maroc. Et j'étais un peu... je marchais un peu sur les œufs parce que je trouvais qu'on avait toujours le problème du banc de touche qui va revenir. Et je sentais qu'il allait avoir un problème en rapport avec le banc de touche, malheureusement. Et puis, je me suis dit, si je ne vais pas au match du Canada, peut-être que je n'aurai pas la chance après de pouvoir assister encore à une victoire. Et donc, je prends la décision du jour au lendemain d'aller au match Maroc-Canada à Houston, et j'ai pas été déçue parce que c'était un match incroyable, une ambiance incroyable. Le terrain était rempli, disons, à moitié par des Marocains et l'autre moitié c'était des Mexicains qui venaient encourager les Marocains, et donc on était dans une ambiance de folie, de dingue, et pour parler de l'ambiance un peu mieux que moi, on est toujours fier du jeu marocain et de voir l'équipe marocaine gagner. Et bien sûr, je fais aussi partie des gens déçus de la défaite du Maroc en quart de finale, même si on sait que ça reste le quart de finale de la Coupe du Monde. Mais maintenant, disons qu'on est plus content d'avoir participé, on est plus content quand on va très loin. Et donc voilà, c'est pour moi, c'est ça mon bilan pour cette Coupe du Monde.
Ayoub, vous êtes créateur de contenu également. Vous étiez donc présent également sur site. Vous avez vécu cette Coupe du Monde 2026. Racontez-nous votre Coupe du Monde. Et est-ce que le Maroc a été à la hauteur des attentes qui étaient évidemment fortes parce qu'il y avait eu 2022, parce qu'il y avait eu cette CAN ici même avec cette finale. Et donc forcément, le Maroc était très attendu.
Je pense que le Maroc a bien réussi sa Coupe du Monde, même si on a été disqualifié en quart de finale, mais quand même, ils ont fait un très beau jeu. Comme on a tous évoqué, on a joué contre trois équipes de top 10 jusqu'au quart de finale. On a joué contre le Brésil, on a joué contre les Pays-Bas, et après on a eu la France. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui a fait le même parcours que le Maroc a fait. Et autant que supporters qui étaient sur place, ben, on s'est trop déplacé. On en a fait presque 7000 km avec l'avion. Donc, on passait d'une ville à une autre. Ça fait de la fatigue pour nous. On n'imagine même pas les joueurs qui couraient pendant 90 minutes, voire 120 minutes à chaque match et pour pouvoir reprendre encore, sachant que les autres équipes ne se sont pas trop déplacées. On va parler par exemple de la France qui a fait, je pense, 1000 km.
La France a eu effectivement la chance de jouer énormément de matchs à proximité et tous sur la côte Est. Donc effectivement, il y a eu peu de kilomètres.
Et le jour qu'ils se sont déplacés, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc...
Quand ils sont partis à Dallas, là c'était trop loin. Voilà.
C'est ça.
Dallas, c'était la limite.
Donc pour nous, c'était un peu compliqué. Et sachant qu'avec ça, tu as les blessures qui sont arrivées. Donc. Pour nous, c'est tout à fait compréhensible d'être éliminé en quart de finale. On a fait un back-to-back encore. Quart de finale contre la France, encore malheureusement 1-2-0. Mais on a gagné plein d'autres choses à côté. On a rencontré énormément de gens. Le Maroc a quand même laissé son empreinte. Encore cette fois-ci, que ce soit au Mexique ou aux États-Unis, on voyait plusieurs Mexicains qui portaient le maillot du Maroc pour les soutenir. On voyait plusieurs Américains qui portaient le maillot du Maroc pour les soutenir dans le stade. Donc, dans le foot, il y a le trophée, il y a un autre trophée qui est plus humain, qu'on a gagné auprès de ces deux communautés. Et donc ça nous fait plaisir. Pour une personne qui était là-bas, on voyait plein de gens qui venaient nous voir. Oh, Morocco, are you from Morocco? That's nice. Du coup, ils échangeaient avec nous. Alors que je pense, si on revenait il y a 10 ans, personne n'aurait fait la même chose pendant une Coupe du Monde.
Le regard a évolué.
Exactement.
Donc, le joueur africain à ressortir de cette CAN 2026?
Bono.
Ah oui, donc il est forcément marocain pour vous.
Bono, il a fait une très grande compétition.
Le gardien de but donc des Lions de l'Atlas, pour vous, c'est le joueur à sortir africain.
Bah, il a fait des arrêts qui n'ont jamais été faits auparavant. Et c'était pas de la chance parce qu'il l'a fait en CAN, il l'a refait encore ici en Coupe du Monde. Donc Bono, parce qu'on valorise toujours les attaquants et les milieux.
Non, certains auraient pu dire Vosinha, le gardien du Cap-Vert, par exemple.
Pour la belle histoire aussi.
Que souvent, évidemment, les gardiens ou les défenseurs sont pas forcément mis en avant. Rita, pour vous, le joueur à mettre en avant.
Bono, bien sûr, comme représentant du Maroc, mais aussi. J'ai toute l'équipe du Cap-Vert qui a montré un mental d'acier. C'était peut-être une équipe dont plusieurs se moquaient aussi au début. Ils disaient, bon, c'est une Coupe du Monde à 48.
Il y avait une inconnue. C'était leur première participation.
Coupe du Monde à 48 équipes. Voilà, c'est ce genre d'équipe qu'on va commencer à avoir en Coupe du Monde, etc. Ils ont montré un mental d'acier, surtout leur match impressionnant contre l'Argentine. Et je dirais vraiment chapeau, je tire mon chapeau à toute l'équipe du Cap-Vert qui, j'espère, va continuer sur cette lancée aussi.
Nassim, personne ne dit Ismaël Saïbari le meilleur buteur
dire Saïbari parce que Bono, oui, bien sûr, c'est pour moi une légende absolue du football marocain, le meilleur gardien d'histoire peut-être de ce continent-là, surtout en Coupe du Monde. Ce qu'il réalise sur deux compétitions exceptionnelles, mais Saïbari, l'effort qu'il fait, qu'il fait pour arriver fit à cette Coupe du Monde, les gens ils savent pas.
Pressing.
Mais au-delà, c'est Saïbari, il était enfin un peu de surpoids avant qu'il arrive au stage, parce qu'il faut savoir que Wahbi a organisé un stage élargi. Avec une liste élargie pour pouvoir retravailler justement avec deux équipes complètes, y compris Saïbari qui était venu, même s'il était quasiment sûr d'être convoqué, mais il avait des choses à prouver dans ce poste de faux neuf qu'il lui a créé, qui on semblait que ça lui allait comme un gant, mais il devait faire un effort. Il a perdu pas mal de poids, il a gagné en explosivité, il a compris un peu ce que Wahbi demandait de lui pour arriver à cette Coupe du Monde capable de jouer sans ballon, jouer dos au but beaucoup plus plus que ce qu'il a l'habitude de faire au PSV, alors que au PSV il arrive, il se projette, il est déjà dans le carré. Là, on lui a demandé de beaucoup jouer au but, de dézoner, on lui a demandé beaucoup de boulot. Il arrive quand même à planter des buts importants à chaque fois qu'il en a l'occasion. Pour moi, c'est la star de cette équipe nationale version Wabi, il le sera. Malheureusement, il nous a beaucoup manqué contre la France. On l'a vu dans le jeu, on n'arrivait pas à avoir un pivot capable de nous soulager un peu, même sur des longs ballons, peut-être déranger au moins la relance de Saliba ou les montées d'Upamecano. On n'avait personne pour faire ça. Après, on se trompe tactiquement, ça c'est une autre histoire. Mais avec un Saibari, peut-être qu'on aurait peut-être pu déranger les axios. On ne verrait pas un Saliba aussi haut, on ne verrait pas un Upamecano, mais avec des si on refait le monde. Mais justement, Saibari, il nous a manqué énormément et on l'a senti dans le jeu. Et dès qu'il n'était plus là, c'était plus pareil. Déjà, on avait du mal niveau banc d'assurer la même chose et avoir la même qualité. Là, tu étais obligé de commencer avec tes joueurs qui sont normalement tes jokers. Donc voilà, tu n'as plus personne sur le banc pour faire la différence, quasiment. Et on l'a senti d'entrée. Et voilà, donc pour moi, son apport, il était aussi moral. Ça a apporté de l'assurance aux joueurs d'avoir un joueur qui marche sur l'eau comme ça en compétition, qui réussit tout ce qu'il tente. Donc ça fait ses coéquipiers en confiance. Maintenant, je pense que l'équipe nationale, tout le monde fait sa Coupe du Monde. Il n'y a pas quelqu'un qui passe à côté de sa Coupe du Monde plus que ça. Mais tout simplement, tout le monde est passé à côté du match contre la France. Donc autant tout le monde méritait les éloges tout le temps, autant tout le monde a mérité les critiques après contre la France, qui étaient entièrement justifiées et que le coach a compris et qu'il a assumé lui aussi sa responsabilité, ses envies de changement qui n'ont pas forcément marché.
Saibari qui a réussi effectivement sa Coupe du Monde avec ses 3 buts et qui depuis en plus a été recruté par le Bayern Munich. Donc on a hâte de voir aussi la suite de sa carrière en Allemagne dans le club champion d'Allemagne en titre. Dans quelques instants, on va continuer de parler évidemment du football marocain, mais aussi de vous, Rita et Ayoub. Vous nous direz tout sur ce que vous faites. Créateur de contenu, ça veut dire quoi? Quel est votre quotidien? Quel est votre rapport au football? Et puis on parlera également de la nouvelle de la journée, bien évidemment, parce que Zinedine Zidane est le sélectionneur de l'équipe de France. Ça faisait des années qu'il attendait ça, près de 5 ans. Et bien, ça y est, il succède à Didier Deschamps. Il a été intronisé aujourd'hui par la Fédération française de football. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'afterfoot en direct de Casablanca.
Karine Galli.
On est ensemble à Casablanca, on parle du football féminin et africain. Vous le savez qu'actuellement, il y a la CAN féminine qui se déroule au Maroc. Les matchs ont lieu à Rabat et à Casablanca. On est ensemble avec Nassim Elker, qui est journaliste dans plusieurs médias marocains, et avec nos deux créateurs de contenu, Rita Misdit, qui est créatrice de contenu et médecin, et Ayoub Logi, créateur de contenu. Je me tourne vers vous. Ça veut dire quoi, créateur de contenu dans le foot? Et comment est née aussi cette passion pour le foot? Rita, vous êtes une jeune fille, vous aimez le foot, vous faites de brillantes études en même temps, donc ça fait quand même un quotidien très chargé.
Bah oui, c'est forcément tous mes souvenirs d'enfance, mon quotidien est très chargé, mon quotidien a toujours été chargé. Mes parents ont pris soin de me mettre depuis mon plus jeune âge sur plusieurs activités, donc j'ai jamais eu ce problème d'ennui. Et donc c'est vrai que c'est problématique pour moi quand je m'ennuie. Et du coup, quand j'étais jeune, je jouais au foot, surtout avec mes cousins. Et ça m'a jamais posé problème d'être une fille qui joue au foot. J'ai toujours aimé ça. Et puis à un moment vient 15 ans, 16 ans, et je jouais au foot à la plage. Et il y a un homme qui vient me voir et qui me dit: moi je suis sélectionneur U15 féminin de l'Olympique Lyonnais, et j'aimerais bien te faire un petit test amical, et si ça marche, on peut te prendre pour un test un peu plus pro à Lyon. Et je dis ok, on y va, et je suis toute contente, et mon cousin il est content, et on fait ça. Mais à ce moment-là, moi, je passe au lycée, je passe en sciences mathématiques, donc c'est un peu le truc le plus compliqué dans les études. Et on fait le test, il me dit, ok, moi, j'adore comment tu joues et tout. Il va voir mes parents, et mes parents, ils disent, non, faut qu'elle a ses études, et elle peut pas partir maintenant en France, elle a ses études. Et moi, j'étais un peu d'accord, parce que j'aimais bien ça, j'aimais bien les études.
Et c'est l'enfant parfait.
Alors, j'aurais aimé, mais si c'était possible, oh, Maroc. J'ai passé des tests pour des équipes au Maroc, mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'équipe féminine vraiment complète. Et donc, j'ai un peu oublié l'idée. Après, je commence la fac de médecine et on crée une équipe féminine de la fac de médecine. Et donc, on joue avec l'équipe féminine de la fac de médecine. Et donc, j'ai jamais eu... un détachement du lien avec le foot. J'ai toujours eu le lien avec le foot et même ma famille et mes cousins ont aidé avec ça. Et au fur et à mesure, je commence la création de contenu et au début, je fais des vidéos comiques. Et au fur et à mesure, je commence à un peu expliquer des choses. Tout ce qui me passe par la tête au début, c'est raconter des histoires. Je fais de la vulgarisation scientifique, j'explique des choses. Et petit à petit aussi, avec les performances de l'équipe du Maroc, avec les performances des équipes féminines, avec les amis que je commence à me faire qui font partie soit des joueuses d'équipe féminine ou des entraîneuses femmes qui sont marocaines et qui travaillent au Maroc, je commence un peu plus à me rapprocher et donc à aussi comprendre un peu mieux certaines choses. Et j'aime bien aussi avoir cette image de la, disons, femme qui fait des choses dans la vie, mais qui est aussi passionnée par le foot et qui essaye d'expliquer au mieux le foot. Et j'espère que c'est ce que j'arrive un peu à atteindre cet objectif. Mon public me dira. Mais voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Et puis j'essaye de le faire au mieux. Et aussi maintenant, les occasions qui se présentent avec Total Energy, ce qui me permet aussi d'être au plus près des équipes et des compétitions. Et donc ça permet aussi de donner une meilleure image aux gens et être vraiment tout près, proche terrain, bord terrain, montrer aux gens ce qu'ils ne voient pas dans les stades et voir un petit peu tout ce que cache le football.
Et les coulisses.
Ouais, c'est ça, les coulisses. Et j'essaye maintenant d'améliorer ça de jour en jour. Et puis j'espère que ça ira de mieux en mieux.
Et voilà. Pour l'instant, la plus belle rencontre dans ce milieu footballistique?
La plus belle rencontre, c'est une amie très proche qui est joueuse de foot professionnelle et médecin aussi.
Ah bah décidément.
Ouais, et c'est
très rare, il y en a deux. On en a une avec nous comme invitée et votre amie donc.
Ouais, elle joue professionnelle avec une équipe arabe, mais les médecins aussi, et je l'admire beaucoup parce que bon, moi je sais que je fais aussi beaucoup de choses, mais la création de contenu est pas aussi demande pas autant de choses physiquement, sachant alors que le foot professionnel demande beaucoup de choses de l'humain physiquement. Et donc je l'admire beaucoup pour ce qu'elle fait.
Ayoub, comment est née la passion du foot? C'est tout petit, c'est papa qui a transmis cette passion, les grands frères?
En tant que Marocain, c'est inné la passion au foot.
C'est obligatoire.
C'est dans
On
ne
peut pas passer à travers.
C'est ça, exactement. Bah, après, je jouais au foot depuis toujours. Je jouais dans un club ici au Maroc. Quand j'étais petit, j'étais capitaine. Après, j'ai évolué dans plusieurs catégories d'âge. Et bah après, c'était les études. Donc, pareil, on a dû faire un choix. Je suis parti en France pour étudier. Donc, on a pris le chemin des études. Et après, on a essayé de trouver un moyen pour revenir dans le milieu du foot sans être vraiment footballeur. Bah, c'était la création de contenu. Du coup, on est des fois en bas avec les joueurs et tout. Donc, ça nous fait plaisir de vivre avec eux ces moments-là. Et voilà. Donc on jongle entre les deux aussi, mais ça va.
Il y a la sensation de vivre des moments privilégiés qu'effectivement, nous maintenant, parfois journalistes, on peut même plus vivre parce qu'effectivement, c'est les créateurs de contenu qui sont parfois choisis ou le commun des mortels. Voilà, vous voyez des choses uniques.
C'est ça. Par exemple, à la Coupe du Monde, j'ai eu la chance de croiser presque tous les joueurs de l'équipe nationale. Chose qu'on, je pense, si j'étais pas vraiment créateur de contenu, j'aurais pas eu cette chance-là de les croiser et pas échanger avec eux, sachant qu'il y en a certains que j'ai jamais vus. C'était la première fois et qui m'ont reconnu, ils m'ont dit ah bah je te connais sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir de. Ça.
Grâce à cette visibilité, vous avez des accès privilégiés.
Exactement. Comme elle a dit Rita avec Total Energies, on a accès en bas pendant les compétitions comme la CAN, la Champions League, la WAFCON, et du coup bah ça fait plaisir d'avoir ce type d'accès que je pense que j'aurais jamais rêvé de les avoir avec mon 9 to 5 job, ça aurait été impossible. Donc ça fait plaisir de jongler entre les deux et vivre ces expériences-là.
En plus, vous êtes très jeunes tous les deux. Hein.
Ah bon.
Non ? Vous avez quel âge ?
Moi, j'ai 26 ans, bientôt 27.
Moi, je dévoile pas, mais hein, dans les mêmes environs, ouais.
Comment ça, je pense pas?
Normalement, c'est l'inverse, non?
Je pense qu'il a 30 ans. Je suis sûr qu'il a 30 ans.
Non, c'est pas l'inverse, normalement.
On me l'avait jamais fait, celle-là, Nassim, le garçon qui dit « je ne dévoile pas mon âge ». Bon, on ne saura pas. Nassim, c'est vrai que c'est impressionnant quand on entend notamment le parcours de Rita, une jeune femme passionnée de foot qui fait des grandes études, qui aurait pu aussi partir à l'Olympique Lyonnais en France. C'est un parcours qui est assez inspirant. Les jeunes filles, quand elles doivent voir Rita, elles doivent se dire « c'est incroyable ».
Ouais, voilà, c'est des histoires très très sympas à connaître. Moi, je les connaissais pas avant niveau histoire, mais je connais leur contenu, je les suis et j'adore leur contenu tous les deux. Mais ce qui est aujourd'hui possible grâce à la création de contenu, ce qu'ils font pour le football, etc., et pour le suivi, c'est très intéressant, surtout quand sa valeur vraiment, ça transmet des valeurs comme celles qu'on a vues aujourd'hui, comme le partage et comme la promotion de football féminin qui a besoin de promotion. On ne croit pas que ce qui se fait est déjà assez. Non, c'est pas assez. Il y a des joueuses aujourd'hui qui essaient de jongler entre les études et le football. C'est compliqué, mais aujourd'hui, elles ont le moyen de le faire un peu plus facilement qu'il y a quelques années, comme tu disais tout à l'heure. Tu as parlé de ta copine qui est docteur et en même temps elle joue. Je pense au foot, si tu parles de Selma.
Ouais, c'est Selma
Bougherche. Je pense qu'elle était même Wydad. Elle a arrivé à être internationale marocaine, même en étant docteur à côté. Donc voilà, c'est des histoires inspirantes aujourd'hui qui se créent autour de ce football féminin, justement. Mais la création de contenu participe justement à la visibilité dont on parlait tout à l'heure, dont tu as besoin. Ce sport-là et aujourd'hui force est de constater que c'est la création de le contenu qui chope le plus de chiffres. Nous journalistes, on va dire classiques, on était obligés à un moment donné de nous y mettre d'une manière ou d'une autre. Moi j'essaye j'arrive pas à tenir un rythme de vidéo.
J'aime bien ta vidéo.
J'essaye de tenir un rythme et de mêler un peu les deux, mais je reste quand même l'autre école radio et école écrit. Donc j'essaye de m'y mettre parce que je suis obligé, sinon le train il va passer, sinon tu vas être dépassé. Pas au même rythme qu'ils le font parce qu'il y a le job à côté, le 9-to-5 job dont tu as parlé, qu'on essaie de... C'est pareil, j'ai lancé un média récemment, mais qui est sur les réseaux sociaux justement et qui offre une sorte de plateforme un peu à tout le monde. Dès que tu as du bon contenu, nous on le diffuse, il n'y a pas de souci tant que c'est sportif et ça sert à la promotion de ce sport. Donc aujourd'hui, voilà, les créateurs de contenu font partie du paysage. On a qu'à suivre le rythme, on n'a pas le choix de toute façon. On ne sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter. Mais pour l'instant, pour tenir le rythme, on n'a pas le choix.
Mais il y a l'IA qui arrive après.
Le débat journaliste, créateur de contenu, surtout dans les événements et les grands événements où on ressent des fois une légère frustration de la part de beaucoup de personnes qui auraient voulu avoir les accès que certains créateurs de contenu ont. Et nous, le seul moyen qu'on a pour se défendre aussi, c'est de dire que nous, maintenant, on est dans des plateformes qui font partie du quotidien des gens. Et donc, ce qu'on offre en contrepartie aux sponsors, c'est ça, il est différent. Ce qu'on offre en contrepartie au public, il est différent. On ne veut pas faire le travail de journaliste.
Oui, c'est pas le même métier, de
toute façon. Et il y a de la place pour tout le monde. Dans l'événement, pour moi, un journaliste, il a aussi intérêt à se renouveler. Comme vous avez décidé un jour de poster à peu près 8 vidéos par semaine, voire 9. Des fois, c'est un job à part entière monter et de le faire. C'est aux autres métiers de s'adapter, y compris le journalisme. Aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre, dire qu'ils ont de la place et pas nous, parce que nous, c'est des accréditations qu'on a.
Après, ce que je vais dire rapidement, c'est que, par exemple, nous, on a un job 9-to-5, et c'est totalement différent que celui du journalisme et tout. Alors que, moi, je trouve que c'est plus facile pour les journalistes qui parlent d'un sujet de faire de la création de contenu sur le même sujet, parce que déjà, ils font le même travail. Alors, nous, on termine, moi, je suis en informatique, c'est aucun rapport aussi, chef de projet. Donc, quand je termine, c'est autre chose carrément que je fais, c'est pas la même chose. Exactement. Donc, je suis obligé de retravailler comme un autre 9-to-5, mais le soir. Exactement.
Donc c'est pas facile.
Et ben en tout cas, si vous voulez découvrir, si vous ne connaissez pas déjà les contenus de Rita et de Ayoub, vous pourrez évidemment les suivre et voir ce qu'ils vous proposent. Ils étaient notamment présents donc lors de cette Coupe du Monde 2026 qui vient de s'achever. Dans quelques instants, nous allons parler évidemment de l'actualité de la journée. 20 ans après, il revient. Oui, le rêve est devenu réalité. Zinedine Zidane est désormais le sélectionneur de l'équipe de France. Il s'est engagé pour 4 ans. On en parle. Vous avez suivi évidemment toute la journée sur RMC. Les premiers mots du sélectionneur, des émissions spéciales. On en parle dans quelques instants. On est à Casablanca. Tout de suite.
RMC, l'afterfoot en direct de Casablanca.
Karim Galli.
Sur RMC, on est à Casablanca, une émission spéciale sur le football africain, les femmes et les hommes à l'honneur actuellement. Il y a la CAN qui se joue au Maroc, elle a débuté le 26 juillet et elle se clôturera le 16 août avec pour la première fois 16 nations engagées. On a eu de nombreux invités ce soir, notamment Marwan Chamakh. On continue avec Nassim Elkert qui est journaliste dans plusieurs médias marocains et deux créateurs de contenu, Rita Mizid qui est créatrice de contenu et médecin, et Ayoub Logique. Vous pouvez les suivre évidemment sur leurs différents réseau. Mesdames, messieurs, nous allons parler de l'événement de ce jour. Mardi 28 juillet 2026. Ça y est, ça faisait des années qu'il attendait ça, Zinedine Zidane. Il rêvait que d'une chose, c'est d'être sélectionneur de l'équipe de France. Eh bien, ce jour est enfin arrivé. Lui qui a marqué évidemment l'histoire de l'équipe de France, 20 ans après avoir terminé sa carrière en tant qu'international français. On rappelle malheureusement un soir de finale. C'était terrible face à l'Italie et lors de ce coup de boule terrible avec l'Italie qui sera sacrée championne du monde. Eh bien, ZZ est de retour en tant que sélectionneur, il en rêvait. On va tout de suite écouter Zinedine Zidane qui nous parle de cette envie d'être sélectionneur des Bleus.
J'ai toujours regardé cette équipe de France comme un supporter, mais aussi comme un futur entraîneur. Je ne vais pas vous le cacher, de toute façon, je l'ai dit, je l'ai toujours dit. Quand j'ai pas pris un club pour ça. La seule chose que je voulais faire après Madrid, c'est entraîner l'équipe de France. Et je m'y suis tenu. J'avais des opportunités, je pouvais très bien avoir un projet, suivre un projet pendant 2-3 ans. Je savais que Dédé était là, en place. Une fois qu'il a pris sa décision, dès le lendemain, de toute façon, j'étais animé de pouvoir être le suivant après Dédé.
Zinedine Zidane, donc, qui prend la suite de Didier Deschamps. On le savait, évidemment, c'était un secret de polichinelle depuis plusieurs mois. Mais là, c'est officiel. Il l'a dit, il n'a rien voulu faire depuis son départ du Real Madrid. Il voulait se consacrer à cette mission. C'est beau, Nassim, de voir cette émotion, parce qu'il était ému aujourd'hui, alors que Zinedine Zidane est une icône française, une légende mondiale. Et pourtant, eh bien, aujourd'hui, c'est un rêve de gosse qui se réalisait.
C'était écrit. Il y a des histoires comme ça dans le football qui sont écrites, qu'on ne peut pas changer. Zizou à la tête de l'équipe de France, après sa sortie, j'ai l'impression que sa carrière en équipe de France, c'est une romance extrême du football que nous offre ce sport. C'est juste unique de voir une histoire comme ça, avec ses hauts, ses bas, ses départs, ses faux départs, ses retours. Et même le carton rouge, on a l'impression, le fameux de
franchement,
finale.
Ça serait passé du carton rouge en 2006, non?
Mais
vraiment.
Il fait partie de l'histoire quand même. Et ce retour-là, et qu'il attend autant, et qu'il attend aussi longtemps en refusant des gros projets, hein, il les a pas cités, mais j'en connais des clubs qui étaient intéressés et que personne n'aurait pu refuser, je dis bien personne, même financièrement, même des projets au golf qui sont tombés comme du golf et d'Arabie Saoudite qui tombent comme ça à la dernière minute et tu attends. Pour l'équipe de France, pour justement faire ce dont tu rêves, parce que on le connaît, Zizou, il va pas aller dans un club ou dans une équipe qui lui représente un peu rien du tout. Oui. Il faut, c'est même lui-même un romantique du football, et même ici au continent, comme il est apprécié au Maroc, en Algérie, partout, Zizou, c'est le football. Donc c'était émouvant de le voir ce matin, c'était émouvant de le voir en conférence de presse, lui-même ému, lui normalement qui montre pas énormément ses émotions. On le voyait un peu comme un nouveau qui signait son premier contrat pro avec une équipe première. On avait l'impression que c'est un entraîneur qui commence à peine et qui n'a pas trois Ligue des Champions derrière en back-to-back, je sais même plus comment on l'appelle, le triplé Ligue des Champions, et qui a attendu tout ce temps pour cette équipe nationale. Il a dit lui-même, il l'a vu en tant que supporter. Mais il avait aussi en tant qu'entraîneur cette équipe nationale. Et aujourd'hui, regardez le vivier qu'il a, et la profondeur, la liste. Voilà, il y a 40 joueurs sélectionnables exceptionnels. Donc voilà.
On en parle de Zinedine Zidane parce qu'évidemment c'était attendu depuis longtemps. Est-ce que vous avez déjà eu le plaisir de le rencontrer dans votre travail de créateur de contenu ou jamais?
Pas encore.
Pas encore. ZZ ne vous a pas fait l'honneur d'être dans une de vos créations de contenu. C'est un rêve de rencontrer ZZ? C'est une idole?
Bien sûr. Bien
vous
sûr,
pouvez bon. Me dire non, je suis trop jeune, hein, je le prendrai
non,
pas mal.
Non, bah justement, c'est que le plus fou avec la légende de Zidane, c'est que même en n'étant pas encore né quand la France a remporté la Coupe du Monde pour la Coupe du Monde
98,
j'étais pas encore né.
Le coup de poignard.
et ce qui est venu après le match qui était contre l'Italie, j'étais encore très jeune.
2006.
Et donc à ce moment-là, je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais je connais quand même la légende et je suis au courant de tout ce qui se passe. Donc pour moi, c'est plus qu'une légende. Et puis c'est peut-être pour moi la meilleure personne à avoir pour l'équipe de France après l'épopée de Didier Deschamps qui, on le rappelle, a fait 14 belles années avec l'équipe de France, avec une Coupe du Monde, avec une finale aussi qui était incroyable. Et donc on lui souhaite tout le bonheur et puis on souhaite qu'on le rencontrera. Peut-être qu'il est en train de nous écouter. Et donc s'il nous écoute, je lui dirai s'il vous plaît, à très vite.
Il était présent au Maroc pour la CAN, on rappelle, puisqu'il était venu encourager évidemment son fils, gardien pour l'équipe d'Algérie. Ayoub, pour vous, Zidane, vous avez plus d'images en tant qu'entraîneur du Real Madrid, j'imagine, vu votre jeune âge, ou vous avez aussi des images de Zidane, joueur de l'équipe de France?
On a les deux, des stars comme ça, des idoles de foot, même Maradona, on le connaît.
Il a avoué son âge. Hein.
Même Maradona.
J'ai essayé, hein.
Il a avoué son âge à moitié.
J'ai essayé de savoir comme ça, en fin de temps.
J'ai senti la perche arriver. Donc, il y a des joueurs comme ça qu'on connaît, Ronaldinho, Maradona, Pelé. C'est des même après leur même si on n'est pas là genre dans 20 ans je pense qu'on en parlera encore parce qu'ils ont réalisé des choses qui sont compliquées à faire comme il a dit les trois Champions League d'affilée autant qu'entraîneur la finale de la coupe du monde en 2006 contre l'Italie avec le coup de boule contre Materazzi
Tout à fait sur le torse de Materazzi.
Exactement. Donc il y a des choses qu'on se rappellera en tant que footballeur et en tant qu'entraîneur et la fois qu'il a entraîné, bah il a gagné 3 Champions League d'affilée. Donc ouais. En tant qu'entraîneur et en tant que joueur, il est apprécié par le monde entier.
En tant que fan de Real Madrid, je trouve qu'il a fait partie aussi de la légende de toutes les Champions League du Real Madrid.
Bien sûr, a gagné en tant que joueur 2002 et puis après il y a eu maintenant, ce triplé en tant que entraîneur principal avec une totale réussite.
Maintenant, je pense que ça va être la barre elle est assez haute, ça va être compliqué d'arriver derrière Dédé après 14 ans de performance, faut le dire, hein. Il y a pas que des mauvaises histoires à raconter, l'histoire de Dédé en équipe de France. Faut venir après, faut oser le faire, de venir relever ce défi-là. Ils font demi-finale, finale, ils sont champions. Avant, ils font quart de finale, si je me trompe. Avant, je pense en 2014, c'était quart de finale.
Défaite face à l'Allemagne.
Contre l'Allemagne, une tête de Hummel, si je me souviens bien. Écoutez, tu viens, il faut le faire après. Il faut être là. Il y a aussi cet euro-là qui passe à côté. En finale, donc il y a des performances à faire oublier. Mais non, la génération qu'il a, il peut pas se plaindre. Il a des joueurs exceptionnels qui jouent au plus haut niveau et pas que. Il a souvent le meilleur du monde à son poste, un peu partout. Donc il a la pression. Ça fait longtemps aussi qu'il a pas connu la pression du banc. Faut se réadapter un peu, même si on s'appelle ZZ et que voilà, en France on le considère comme un dieu vivant chez certains. Donc faut le faire et faut venir, faut relever le défi, faut accepter de peut-être échouer. J'espère que c'est pas deux trois matchs, mais l'histoire elle est trop belle pour qu'on arrive même à imaginer un échec. Comme je disais tout à l'heure, c'est tellement romantique qu'on n'arrive même pas à imaginer l'échec quand on se bloque. Mais aujourd'hui il a un sacré défi à relever parce qu'il n'y avait pas le néant avant lui. Et généralement les premiers matchs de réadaptation, ils peuvent soit être magnifiques à voir avec des performances XXL, soit un peu poussif et compliqué avant d'arriver à tenir le rythme.
Eh ben, on verra, ça commencera face à la Turquie. En tout cas, c'est une immense fierté pour Zinedine Zidane de devenir le sélectionneur de l'équipe de France. C'est un rêve de gosse. Il l'a dit devant les journalistes. Ce mardi, on l'écoute.
C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est de gagner avec les copains. J'ai passé ces 4-5 années à attendre ce jour-là. Et là, ça devient réalité. Donc forcément, je suis un peu ému, mais vous pouvez pas le voir. Je suis tout excité, quoi. C'est quelque chose de fort pour moi aujourd'hui. Et en même temps, il se passe des choses qui sont compliquées pour beaucoup de gens, donc, mais je suis heureux.
France 98 qui continue aussi, on le rappelle évidemment, ça avait commencé avec Laurent Blanc, les 14 années de Didier Deschamps, puis aujourd'hui c'est Zinedine Zidane qui doit amener l'équipe de France au plus haut. C'est bien aussi parce qu'il a parlé de Didier Deschamps, il a dit Dédé, voilà. On ne ostracise pas le passé, on ne fait pas semblant de ne pas nommer l'ancien sélectionneur.
Non, je trouve ça
très bien parce qu'il a dit son nom plusieurs fois, il lui a même rendu hommage. Très élégant, très classe.
Ah, comme à son habitude, il a devant les médias, il se trompe rarement. Il parle rarement, mais quand il parle, il sait quoi dire. Aujourd'hui, on verra plus souvent en conférence de presse parler de l'équipe de France et ce que ça représente pour lui. On connaît son histoire en équipe de France, ce qu'il a représenté pour les Français en tant que joueur, ce qu'il a représenté pour les Français en tant que futur sélectionneur, parce que dès qu'il a réussi avec le Real, c'est bon, tout le monde le voyait déjà sélectionneur, alors que même le projet Dédé était encore en place et qu'il arrivait à faire finale de Coupe du Monde, on parlait déjà de Zidane, etc. Mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il respecte le vécu. Ben, il faut être fou pour pas respecter ce que Didier Deschamps a réalisé avec l'équipe de France. On rappelle qu'il vient après une période hyper compliquée pour l'équipe de France. Il arrive à redresser la barre, à la transformer en une des meilleures équipes du monde. Bien sûr qu'il a la chance d'avoir les joueurs, mais il faut rassembler ce groupe, mettre les égos de côté pour travailler. Didier Deschamps a réussi à le faire. Je pense que Zidane aussi a réussi à le faire au Real Madrid. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne réussisse pas à le faire en équipe de France. Mais il est dans un projet qui doit s'inscrire dans la continuité parce que c'est un projet qui marche. Faire demi-finale de Coupe du Monde, certains peuvent considérer ça comme un échec, mais quand on voit la série et quand on voit la série de victoires et ce qu'il a fait pendant toutes les Coupes du Monde, bien sûr que ça reste un exploit de faire demi-finale, surtout sortir contre le futur champion du monde qu'on s'est rendu compte qu'il était injouable finalement.
Il a rendu hommage en tout cas à son ancien coéquipier et désormais ex-sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. Il aura attendu 5 ans pour être à la tête des Bleus. 5 ans se sont passés entre son expérience au Real Madrid et donc l'équipe de France et cette aventure qui commence aujourd'hui. Il a été interrogé forcément aussi sur parce que beaucoup critiquaient notamment Didier Deschamps sur un jeu qui était trop restrictif à une certaine époque. Là, lors de la dernière Coupe du Monde, c'était beaucoup plus flamboyant. On écoute Zinedine Zidane sur ce qu'il veut instaurer en bleu.
Je suis animé par le jeu. J'étais un numéro 10. Ce qui m'anime, c'est d'aller marquer des buts. Bien sûr, il faut un équilibre d'équipe. Ce qui m'anime, c'est le jeu. J'ai vécu 25 ans en Espagne. Moi, sur le terrain, j'étais un leader. Et aujourd'hui, je vais devenir un leader par mon expérience, par ce que j'ai fait, par ce que je crois être maintenant comme entraîneur.
Ayoub, il le sait, Zinedine Zidane. Il s'est préparé depuis des années à devenir sélectionneur des Bleus. Mais c'est vrai que là, l'attente, elle est complètement folle. Parce que c'est Zinedine Zidane, parce qu'il est ballon d'or, parce qu'il a évidemment fait gagner l'équipe de France. Et parce que l'équipe de France aussi, maintenant, est toujours dans les équipes les mieux placées, les mieux classé. Alors elle gagne pas à chaque fois parce qu'il y en a qu'une, mais en tout cas il y a un standard qui est très élevé.
Exactement, et comme tu as dit, à chaque fois qu'il y a qu'un seul gagnant, malheureusement pour Didier Deschamps il n'a pas pu tout gagner, mais quand même il était tout le temps dans le carré final presque, en demi-finale, mais il a quand même gagné une Coupe du Monde en 2018, donc il ne faut pas négliger tout ce qu'il a fait. Et Zidane, c'est un grand homme. Il a le respect. Comme vous avez dit, il a respecté Didier Deschamps avec tout ce qu'il a fait. Et pour lui, le challenge est un peu compliqué. Mais pour garder le même rythme que Didier Deschamps et plus pousser pour gagner plus de finales. Et comme on dit, Inch'Allah, il l'aura.
On lui souhaite le meilleur. On rappelle qu'il s'est engagé pour 4 ans. Donc il y aura évidemment le prochain Euro et puis la Coupe du Monde 2030. Des objectifs très élevés pour Zinedine Zidane qui a fait donc sa rentrée aujourd'hui devant les journalistes avec évidemment beaucoup de questions, beaucoup d'émotions. On l'a senti lorsqu'il s'est présenté en ce mardi 28 juillet. Merci beaucoup d'avoir été à mes côtés. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Rita? Une totale réussite en tant que médecin et beaucoup de création de contenu.
Oui.
C'est pas mal.
Et rencontrer Zinedine Zidane.
Et ben voilà. ZZ pour une future rencontre. Merci beaucoup à Ayoub Logique d'avoir été à nos côtés. Un grand merci également à Nassim Elkerb, journaliste marocain que vous pouvez retrouver sur plusieurs médias. On remercie évidemment tous nos invités. Total Energy également d'avoir été à nos côtés. Et surtout, demain, ne manquez pas une émission spéciale. Ce mercredi, RMC vous donne rendez-vous avec Rémi Barré et Julie Brault entre 9h et 12h en direct. RMC a décidé de bousculer ses programmes avec une émission spéciale sur les terribles incendies qui frappent la France. On vous attendra, on vous écoutera au 32-16. RMC vous donne la parole. Si vous avez été évacué, si vos proches ont été évacués, si vous donnez ou si vous voulez apporter votre aide et votre soutien aux victimes de ces incendies, on vous attend ce mercredi au 32-16 sur RMC. Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Merci à Najib, merci à toute la prod. Belle nuit à tous sur RMC.
RMC, l'afterfoot en direct de Casablanca.